Bonsoir à toutes et à tous, c'est l'heure des Amis d'Orwell sur Radio Libertaire. Alors comme promis, on vous l'a dit il y a 2 semaines, on revient tout juste de l'Est de la France pour le procès des 7 militants poursuivis pour association de malfaiteurs en bande organisée selon l'accusation. Donc le procès avait lieu cette semaine du 1er au 3 juin. Il faut rappeler qu'ils ont passé entre 3 et 4 ans à subir un contrôle judiciaire de malade, hein, par exemple. Elle ne pouvait pas se rencontrer, même entrer en contact entre elle et eux, ainsi qu'avec d'autres membres de la lutte. On vous donne l'information de suite. Le verdict a été mis en délibéré, c'est-à-dire qu'on le connaîtra bien plus tard, dans 3 mois. En l'espèce, ce sera exactement le 21 septembre. Les réquisitions, c'est-à-dire les peines demandées par l'accusation par le parquet. On vous les résume maintenant. Elles sont comprises entre 10 et 18 mois de prison avec sursis pour les 6 premiers prévenus et de 12 mois ferme pour le 7e qui a déjà fait 8 mois de prison préventive. Nous avons donc fait un petit compte-rendu sonore réalisé avec le concours de l'équipe Automédia du collectif de soutien. Nous sommes toutes des malfaiteurs. Merci, un grand merci particulier à Radio Zinzine de Longomaille et à Max. On vous laisse écouter ça et en deuxième partie, nous diffuserons une série d'entretiens réalisés sur place qui fait le point justement sur la lutte contre ce projet funeste qui s'appelle donc CIGEO, le projet d'enfouissement des déchets nucléaires. À tout à l'heure. Alors malgré l'ambiance un peu joyeuse, nous sommes bien à Bar-le-Duc ce mardi 1er juin sur la place de l'église, la place du tribunal. C'est donc le premier jour de ce procès à grand spectacle. Le procès des malfaiteurs et malfaiteuses. Le fameux procès des anti-CIGEO. Alors ici nous avons donc une petite, comment dire, un aérobic anti-nuque. Il y a déjà pas mal de monde. Il y a évidemment des limitations de place pour pouvoir assister au procès. Tout le monde ne pourra pas rentrer. Alors évidemment, là il est 9h passé, il devait y avoir en gros 40 places à l'intérieur pour le public, y compris les prévenus et leurs proches. Les journalistes sont dans une salle annexe avec un écran pour pouvoir suivre les audiences. Mais là apparemment aucun soutien ne peut rentrer, que les prévenus sont dedans, très peu d'informations. Là il est 9h passé, donc là ça commence un petit peu à grincer. C'était prévisible, pourrait-on dire.
Et il y a quand même un enjeu de 10 ans de prison. Et je voudrais assister à la mise en accusation. Et on ne me donne pas le droit d'assister. Je ne suis pas militante. Je suis que la maman. Et je voudrais être là en soutien de mon fils. Parce qu'il risque gros. Alors je voudrais bien que vous ne mentiez pas. Il y a 40 places, on nous a assuré d'être là, et s'il y a des places, j'exige qu'on me laisse rentrer, parce que je suis extérieure.
Vous avez un lien avec les gens responsables de la sécurité dedans, vous pouvez faire un effort pour faire rentrer les 15 personnes. Vous obéissez aux instructions, vous n'avez pas de dialogue avec la personne à l'intérieur qui est responsable de la sécurité.
Les correspondants de la manif m'ont donné des référents, je communique avec eux.
Non mais c'est pas une manif là, c'est pas une manif là, on parle du procès, on parle de l'intérieur, on parle de l'accès au tribunal, c'est bien vos hommes qui empêchent l'entrée. Donc on parle pas de la manifestation, on est d'accord. Non mais confondez pas tout, là il s'agit pas du préfet de police en fait, il s'agit du juge, il s'agit du greffier d'audience, c'est là, c'est à ses ordres, à lui, que vous obéissez d'une certaine manière en empêchant l'accès au tribunal, on est d'accord. Donc venez pas brouiller les pistes en me disant que c'est une manifestation. Il s'agit de l'accès au tribunal pour des proches de mise en cause.
J'ai noté, monsieur. Moi, j'ai mes infos. Sur mon ordre de nouvelles, et je vous tiens au courant.
Des nouvelles, hein. Bah oui, bah, bien sûr. Merci, ça, monsieur. C'est bien votre rôle, quoi.
Tout à fait, monsieur.
Il y a 40 places. Il y a 37 places sont prises. Donc la couverture sanitaire empêche la justice de se dérouler à peu près correctement, si tant est que ça soit possible.
Madame Rivasi, vous êtes, on est là à Bar-le-Duc. Qu'est-ce qui a motivé le fait que vous veniez pour ce procès ?
Ben moi je suis venue parce que je trouve ça scandaleux que des gens manifestent et soient traités de malfaiteurs, d'associations de malfaiteurs. Ça veut dire que tous les gens qui s'opposent à ce projet d'enfouissement des déchets radioactifs, ben ils n'ont pas droit d'expression. Et s'ils n'ont pas droit d'expression, ben moi-même aussi en tant que politique, je n'aurais pas droit d'expression. Donc je trouve ça scandaleux sur ce qu'on peut appeler la démocratie. Et puis là, au niveau du procès, on voit que même le tribunal ne veut pas accepter les proches des inculpés de venir. Donc de quel droit ? Vous voyez, tout est biaisé. Vous voyez, dans le nucléaire, tout est biaisé. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de débat. Quand c'est des débats gadgets, puisque de toute façon, la décision est prise. Là, on voit qu'il y a plein de problématiques sur si on met ces déchets, il peut y avoir des risques d'explosion, des risques d'incendie, des risques aussi au niveau du personnel qui va gérer ces déchets radioactifs. On ne sait toujours pas l'inventaire des déchets qu'on va mettre en dessous. On sait que c'est des hectares souterrains qui vont gérer ça. On parle de réversibilité alors qu'on sait pertinemment que quand on les mettra dans des alvéoles et que si jamais il y a un fût, vous voyez, où il y a un problème, on ne pourra pas aller le rechercher. Donc on nous ment sur toute la ligne. Et on va mettre des milliards et des milliards d'euros, vous voyez, jusqu'à des centaines et même des milliers d'années. Tout ça parce qu'on ne les verra plus, les déchets. Ils seront enfouis à 500 mètres de profondeur. Et s'il y a des explosions, ben, ça sera dans 100 ou dans 200 ans. Donc on ne pense même plus aux générations futures. Donc tout ce projet est aberrant. Et je suis venue parce que je trouve que c'est très important de montrer qu'il y a des politiques, il y a des gens qui défendent le droit d'expression. Et ça, pour moi, c'est le droit d'expression minimum de pouvoir manifester.
Voilà. Et vous pouvez témoigner que tout se passe dans une ambiance bon enfant pour l'instant. Et que c'est,
Regardez, là, il y a plein de jeunes qui sont là, il y a plein de gens qui manifestent parce qu'ils sont sur les mêmes fondamentaux. Et que c'est bon enfant. Alors bien sûr, il y a la police, mais bon, ça ne me dérange pas. Mais il faut qu'on montre qu'on peut dire non, on peut provoquer un débat. Il faut qu'on nous apporte des réponses à toutes les questions qu'on se pose par rapport à ce site de stockage. Et qu'il faut arrêter de penser que les gens ne sont pas capables de penser au présent et à l'avenir. Or là, on nous dit non, la décision est prise, circuler, il n'y a rien à voir. Mais ça, on est en désaccord. Ça, c'est de la dictature. Vous voyez, dans le nucléaire, vous savez, moi, ça fait des années que je me bagarre contre le nucléaire. Il n'y a jamais eu de transparence. Il n'y a toujours eu que des mensonges. Et c'est le jour où il y aura une explosion, un incendie, qu'on se dira, ah ben si on avait su, on ne l'aurait pas fait. Eh bien, tous ces gens-là qui ont manifesté, pour moi, c'est des lanceurs d'alerte. C'est des gens qui ne veulent pas cette demande d'utilité publique parce qu'elle n'a rien d'utilité publique.
Et vous qui êtes députée européenne, vous, a priori il s'agit d'un plan européen puisqu'il y a des projets qui concernent aussi l'Allemagne, j'ai cru comprendre la Belgique, l'Italie bientôt.
Eh bien, si vous voulez, on a un gros souci au niveau de l'Europe, on a le traité Euratom. Ce traité Euratom, il est adossé au traité de l'Union européenne, mais les parlementaires n'ont pas droit de citer. Vous voyez, on n'a qu'un avis à donner, et encore, s'il est contraire à ce que a décidé les gens du nucléaire, parce que dans le traité Euratom, vous avez tous les promoteurs du nucléaire. Et effectivement, ils ont fait une directive sur les déchets radioactifs où ils disent la solution, c'est l'enfouissement. Mais regardons dans le monde, que ce soit aux États-Unis avec le WIP, où j'y suis allé personnellement, où on enfouit des déchets moyennement radioactifs, eh ben, il y a eu un incendie. Et il y a eu le problème de Yucca Mountain aussi, où on mettait des déchets aussi hautement radioactifs. Eh bien, il y a eu des infiltrations d'eau, donc
même
tout a été arrêté.
En Allemagne, ou...
Il y a eu Gorleben, il y a eu même en Suède, dans le granit, eh bien, je vous assure que quand vous y allez, vous avez un parapluie, parce qu'il y a des fissures de partout dans le granit. Donc il n'y a pas de solution en grande profondeur. Il vaut mieux les mettre en surface. Il y a des solutions en surface ou à la limite en subsurface, mais il faut qu'on y ait accès. Quand on me parle de réversibilité, c'est impossible à 600 mètres de profondeur. Vous voyez, quand à WIP, il y a eu l'explosion, pendant 3 ans, personne ne peut y aller. Sinon, vous allez mettre les gens... c'est pas des robots, puisqu'ils peuvent y aller voyez, en grande profondeur, et vous allez faire courir des risques énormes au niveau des gens, des travailleurs. Donc c'est un truc, ça ne tient pas la route. Ça ne tient pas la route, mais Ça permet de dire aux gens, on est capable de gérer les déchets. Ah ben non, on n'est pas capable. Partout, on a arrêté les sites de stockage. Et même au niveau européen, maintenant, ils se posent des questions.
Très bien.
Ouais. Test ? Ouais, ok. Alors bon, c'est un peu une synthèse à chaud là que je vous fais là, parce qu'on est sorti à 5 minutes et du coup, j'ai pas vraiment eu le temps de synthétiser dans ma tête. Mais bon, on m'a dit de pas trop aller dans les détails. Sachez que le fil info qui est mis à jour sur le site Nous sommes tous des malfaiteurs, sur ce fil info-là, va y avoir plus de détails sur comment s'est passée la matinée. Donc bon, déjà, pour que vous puissiez un peu visualiser comment c'est à l'intérieur. Donc il y a 20 chaises qui ont été installées derrière les bancs sur lesquels sont assis les avocats et les avocates. Ces chaises sont espacées d'un mètre et sont occupées à la fois par des journalistes et par les soutiens. Là, on était 8 soutiens à l'intérieur avant de quitter la pièce. Voilà, donc ça a été assez compliqué de rentrer, comme vous le savez tous et toutes. Et les avocates ont dû faire un peu un bras de fer pour négocier que des soutiens puissent rentrer dans la salle, ce qui a pu être fait, et ça, c'était chouette. C'était un peu une mise en bouche de ce qui va se passer cet après, mais surtout les deux jours suivants. Ça a été essentiellement le rappel des infractions qui sont reprochées. Il y a eu donc tout un document de 180 pages qui rappelle du coup les faits qui auraient été commis à Bure et qui sont reprochés aux personnes qui sont inculpées, et les synthèses qui ont été écrites par les enquêteurs ont été lues, donc synthèse des écoutes téléphoniques, de ce qui a pu être observé à Bure, de quelles sont les différentes associations. C'est un peu tout ce blablabla qui a été lu ce matin. Et c'est pas fini, ça va se poursuivre cet après-midi à partir de 14h10. On n'a qu'une heure pour manger, ça va le faire. L'audience a quand même commencé par... Donc il y a les parties civiles qui ont été appelées à se présenter. À savoir que comme partie civile, il n'y a pas l'ANDRA. L'ANDRA a envoyé un courrier dernièrement pour dire comme quoi elle ne se constituerait pas partie civile. Par contre, dernièrement, il y a la commune de Bure et Groupama Grand Est qui s'est constituée partie civile. Il y a quelques jours, il me semble, c'est très récent en tout cas, pour des faits qui ne figurent plus dans les infractions qui ont été retenues dans la procédure. Donc bon, je pense que les avocats et les avocates vont bien s'amuser. Mais voilà, c'est la seule partie civile qui est représentée par un avocat. Donc oui, il y a eu plusieurs témoins aussi qui ont été appelés à se présenter à la barre, notamment le juge d'instruction de l'affaire Kevin Le Fur, que vous avez peut-être croisé lorsqu'il est sorti. Donc ces témoins-là, ils seront appelés à se présenter demain après-midi. Ils patienteront tous les trois dans une salle avant d'être appelés par le huissier pour répondre aux questions. Donc ensuite, ce qui s'est passé, c'est que oui, il y a les avocats et les avocates qui ont demandé à ce que la pause du midi soit prolongée à 16h. Vous vous dites, mais prolonger à 16h, ça veut dire qu'on ne mangerait pas. Mais il y avait une bonne raison derrière ça, c'est-à-dire qu'en fait, les avocats et les avocates ont demandé à ce qu'elles et eux, et les mises en examen, puissent participer à la manifestation d'aujourd'hui. Ouais. Évidemment, on s'en doute, le procureur a dit que c'est une audience juridique et pas politique. On a 3 jours pour débattre, et que cette demande étant politique et pas juridique, on ne peut pas l'accepter, on ne peut pas s'adapter. Le président de séance, donc le juge, a dit que le calendrier avait été fixé à l'avance, qu'il convenait de le respecter. Néanmoins, les personnes qui souhaitent manifester pourront aller le faire, mais l'audience aura quand même lieu. Ah oui, Étienne, donc l'avocat qui a été perquisitionné dans le cadre de cette instruction, il est avocat. Voilà, pour info, je ne sais pas si vous l'avez su, mais il est avocat dans le procès. Donc aujourd'hui, il comparaît. Lapsus, il est présent avec sa robe, sa robe d'avocat. Voilà. Ensuite, il y a eu toute une partie où beaucoup d'entre nous se sont retenus de pleurer, ou d'autres se sont pas retenus de pleurer, ont simplement pleuré. Ça a été la partie des déclarations des mises en examen. Donc les mises en examen ont décidé de ne pas répondre aux questions qui leur seront posées pour plein de raisons différentes qu'ils ont pour certains détaillés, pour certains, certaines détaillées dans leurs déclarations. Bon, j'ai pris des notes sur les déclarations, mais finalement, ce qu'on s'est dit, c'est que le plus juste, ce serait de les publier sur le site afin que vous puissiez tous et toutes les lire. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà, mais c'était très, très beau, très émotionnel. Je ne peux pas en dire plus. Voilà, sinon, après, à 11h30, c'est là qu'ils ont commencé à lire l'ordonnance de renvoi. Donc, l'ordonnance de renvoi, c'est en fait c'est 180 pages qui ont été envoyées aux mises en examen pour leur expliquer quels étaient les faits retenus à leur rencontre. Donc, en fait, cette ordonnance, voilà, elle est très, très longue. Et ils ont commencé à la lire à 11h30. Et 13h10, on est sortis et ils n'avaient toujours pas terminé. Voilà, je pense que c'est tout. Et puis sinon, ce sera complété sur le site. Nous sommes tous des malfaiteurs. noblogs.org. Voilà.
Votre nom à l'antenne ?
Kev.
D'accord. Vos impressions sur cette première matinée d'audience ?
Alors, le président a ouvert les débats en indiquant que ce procès n'était pas une tribune politique. Il est dans son rôle de président. Nous, ce que nous constatons, c'est que ce procès est politique en raison de l'accusation. Et le comportement du parquet, de la justice dans ce dossier depuis plusieurs années est un comportement politique en ce sens qu'il vise à criminaliser des actions et des mouvements politiques opposés au nucléaire ici dans la Meuse.
Le dossier est très épais. Pourquoi est-ce qu'il est si épais selon vous ?
Il est extrêmement épais parce que les gendarmes et les juges d'instruction se sont intéressés pendant des années à la vie privée et militante et politique des personnes que nous défendons. Et ils se sont intéressés à les moindres recoins de leur pensée, de leurs réflexions, de leurs actions politiques et de la manière dont ils s'organisaient pour lutter contre le projet CIGEO. On a pu également observer au cours de l'audience ce matin, et c'était regrettable, que par exemple... Dans son rapport, le président a fait état de faits dont il n'est pas saisi. Je rappelle que le tribunal n'est pas là pour juger les événements qui ont eu lieu au Bain d'Oeil le 21 juin 2017. Et il a également fait état assez longuement de violences qu'auraient subies des gendarmes au cours de la manifestation. Mais il a par la suite souhaité sauter le passage concernant un manifestant qui a eu le pied complètement déchiqueté par une grenade explosive au cours de cette manifestation. Bien évidemment, nous le lui avons fait remarquer et cela apparaissait du côté de la défense comme un déséquilibre dans la lecture du dossier par le président entre les violences prétendument subies par les gendarmes et des violences gravissimes subies par un manifestant.
Que contient ce dossier pour vous, pour nous donner une justice indépendante et impartiale ?
La justice et la peine ont déjà, la peine d'une certaine manière a déjà été subie par les personnes que nous défendons, en ce sens qu'elles ont été soumises à un contrôle judiciaire extrêmement strict depuis 3 ans, avec une interdiction de se rencontrer, donc que cela a nuit d'ores et déjà à leur possibilité de s'organiser politiquement. Donc ce que nous attendons de ce procès, c'est évidemment que l'accusation d'association de malfaiteurs saute en éclats parce qu'elle ne tient pas et que ce n'est qu'un moyen de nuire à la lutte politique que mènent les opposants ici.
On n'entendra plus les prévenus pendant le procès, ils nous disent maintenant.
Ils se sont déjà exprimés, l'ensemble des prévenus, et ils ont fait preuve d'une très grande solidarité, à l'instar de celles qui se manifestent aujourd'hui, ce matin, par le soutien de très très nombreux soutiens. Ils ont fait leur déclaration, ils ont rappelé qu'ils étaient ici essentiellement prévenus en qualité d'opposants au projet CIGEO, bien plus que d'infracteurs de droit commun. On a également interrogé les conditions dans lesquelles cette information judiciaire s'est terminée. On critique effectivement une sorte d'atteinte à l'impartialité qui doit présider à la façon dont le juge d'instruction clôt ce dossier. Il était pour nous particulièrement choquant que ce soit le procureur de la République qui fasse l'annonce du règlement de cette information judiciaire à l'occasion de la réunion de rentrée et non le juge d'instruction dont c'est le travail. Voilà, c'est de cette façon que s'est ouvert ce procès, cette première matinée d'audience. Alors, à la suite de leur déclaration spontanée, où ils ont rappelé ce pourquoi ils étaient là, ce pourquoi ils étaient engagés, ce pourquoi ils militaient, ils ont effectivement dit qu'ils ne répondraient pas aux questions du tribunal. Qui a été d'ailleurs leur position tout au long de cette information judiciaire pour la quasi-totalité d'entre eux, qui n'ont souhaité s'exprimer ni face aux questions des enquêteurs, la cellule de Bure spécialement composée pour traiter de ce qui se passe dans les alentours, ni également aux questions du juge d'instruction.
Qu'est-ce que vous pensez des délits qui ont été finalement retenus dans l'ordonnance finale ? Est-ce que ce sont des faits graves, modérément graves, peu graves finalement ?
Alors, du point de vue de la loi, nos clients encourent une peine de 10 années d'emprisonnement, ce qui apparaît effectivement extrêmement lourd et grave du point de vue de la loi, mais effectivement, les faits qui sont retenus in fine, ce sont des faits qui tournent autour de l'organisation d'une manifestation le 15 août. C'est essentiellement ça qu'on juge. C'est-à-dire que finalement, on se retrouve avec un procès après 3 ans d'instruction pour juger une manifestation et voir ce qui s'est passé, non même pas au cours de cette manifestation, mais pour ce qui s'est passé en amont de cette manifestation.
Est-ce que vous pensez qu'on peut parler dans cette affaire-là de justice politique ?
A-t-on jamais vu la CGT être poursuivie pour des dégradations qui sont commises en marge d'une des manifestations qu'elles organisent ? A-t-on jamais vu des critiques formulées à l'encontre d'un syndicat particulièrement institutionnel et installé au sein du paysage politique français, de le critiquer en disant qu'il ne pouvait ignorer que, puisque c'est la façon dont il procède dans l'acte d'accusation, qu'il ne pouvait ignorer que, à l'occasion de cette manifestation-là, des dégradations ou des violences contre les personnes dépositaires de l'autorité publique seraient commises ? C'est vraiment une critique qui est politique dans son essence, mais également qui leur reproche une modalité de lutte pour laquelle ils ne veulent pas vis-à-vis de laquelle ils ne veulent pas se dissocier. S'ils organisent cette manifestation, ils ne le font pas en espérant que des dégradations soient commises, ils le font en espérant que l'attention publique soit attirée sur ce qui se passe ici, sur la question de l'enfouissement des déchets nucléaires. Ils ne le font pas avec pour but premier que des infractions, avec aucun. D'ailleurs, ils ne le font pas tout court pour que des infractions soient commises à l'occasion de cette manifestation. Donc c'est déplorable de leur reprocher ça et d'oublier et d'occulter, en leur reprochant ces infractions, d'occulter l'objet essentiel de ces manifestations, de ces discussions, de ces activités, de tout ce qui s'est tenu ces dernières années au sein de la commune de Bure et aux alentours. Et qu'on en oublie l'essentiel, c'est que ici, dans ces terres, ici, il y a un projet d'enfouissement des déchets nucléaires qui interroge en termes de viabilité, de pérennité de notre système énergétique et en termes également de danger pour la santé.
On revient quand même sur la question de l'association de malfaiteurs. Est-ce que dans ce dossier, il y a de quoi soutenir en tout cas cette accusation ?
Nous considérons que non, parce que le délit d'association de malfaiteurs est en soi, dans son histoire, un délit politique qui a été inventé pour nuire à des militants politiques, et nous considérons que dans ce dossier, de toute façon, cette infraction ne tient pas. Nous tenons également à rajouter qu'au début de l'audience, nous avons indiqué au président et au tribunal que nos clients et nous-mêmes souhaitions aller à la manifestation qui est organisée aujourd'hui à 14h, en soutien aux personnes qui sont jugées aujourd'hui, mais également en opposition au nucléaire. Et nous avons rappelé à quel point la liberté de manifester était dans ce pays un droit fondamental et que certains d'entre nous, même avocats, avocates, souhaitions pouvoir exercer ce droit, même aujourd'hui, surtout aujourd'hui, pour que vous êtes très nombreux ici à être venus voir ce procès, pour que la presse et l'opinion publique n'aient pas que l'image de la répression à l'égard des opposants politiques, mais qu'elle est également l'image de la mobilisation contre le nucléaire. Et cette manifestation de cet après-midi, nous l'espérons, permettra de contribuer à cette mobilisation et cette lutte contre l'énergie nucléaire.
Devant le tribunal, là, cet après-midi, l'audience est en train de se dérouler et toi et d'autres avocats de la défense, vous avez décidé d'aller manifester cet après-midi.
Aux côtés de l'ensemble des prévenus, effectivement, et c'est l'occasion pour nous de marquer le coup et de montrer que c'est cette expression des libertés de réunion, de manifestation, qui ont été tellement contraintes, tellement empêchées ces dernières années sur le territoire meusien, aux alentours des installations de l'ANDRA. C'est l'occasion de marquer le coup, c'est quelque chose d'important dans cette modalité d'expression des libertés collectives qu'on s'attache à défendre à l'audience et qu'on veut également s'attacher à défendre à l'extérieur. Ça a été très très fastidieux d'organiser cette manifestation avec la préfecture, avec la mairie de Bar-le-Duc qui jusqu'au dernier moment s'est exprimée arguant qu'elle n'irait jusqu'à pas autoriser la manifestation, comme si on était dans un régime d'autorisation préalable et non de déclaration préalable. Parce que, nonobstant les critiques qui ont été les nôtres, le fait que la Cour d'appel de Nancy a quand même annulé des réquisitions de contrôle successifs trop larges, beaucoup trop systématiques, non motivées, ça continue encore ce matin. Certaines personnes ont été interpellées en voulant rejoindre la manifestation ici. C'est un territoire sur lequel l'expression de toute velléité d'opposition au projet de CIGEO et de l'ANDRA devient difficile, contraint et nous expose tous à des risques de nature pénale. Alors nous qui avons l'habitude d'intervenir au soutien de celles et ceux qui finissent par être déférés pour tout ou n'importe quoi à l'occasion de contrôles ultra fréquents, systématiques et pour des broutilles hein, qui sont outrage, rébellion, violence sans aucune ITT ou des choses comme ça, bah voilà, c'est aussi une façon de montrer qu'on est là pour les défendre à l'audience et aussi et dans la rue. Et parce qu'au-delà de la robe et de tout ça, on a à cœur de s'opposer aussi en tant que personne à ce projet. Et donc voilà, on laisse la robe à l'audience et nous, nous les êtres humains là-dessous, on va se joindre à la manif.
Eh ben merci, bonne manif.
Merci.
Il y a de la relève, c'est bien, ça nous fait plaisir.
Oh. Enfin, des jeunes qui...
Bonjour, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui?
Parce que je suis de l'Union syndicale solidaire. Et donc, bah, pour nous, c'est simple, on est dans cette lutte depuis quasiment le départ. Hein. On est donc un des syndicats qui considérons que ce projet qui est complètement mortifère doit être absolument abandonné. Et qu'il soit revu complètement en totalité et que les personnes là, qui ont été mises en examen soient complètement relaxées parce que ce sont juste des actions de citoyennes, de citoyens, de gens qui défendent la vie contre un projet de mort qui est CIGEO. Voilà.
Bonjour, pourquoi vous êtes là aujourd'hui?
Ah, on vient manifester pour soutenir nos amis inculpés. Normal. Mais, et surtout parce que voilà 40 ans, je suis dans la rue pour demander à ce qu'on ne construise pas de centrale parce qu'il n'y a pas de solution pour les déchets. Le temps a passé, il n'y a toujours pas de solution et on continue à jouer avec le nucléaire jusqu'à ce que ça nous pète à la gueule. Il y a pas... C'est ce qui nous arrivera.
Il y a 40 ans, vous manifestiez contre les centrales nucléaires.
Oui, ben oui, chaud et tout ça. Moi, je suis ardennaise, on avait une centrale, mais il n'y avait pas que là, c'était sur toute la France. Les gens ont peur du Covid, ils n'ont pas peur du nucléaire, je ne comprends pas.
Donc vous avez lutté il y a 40 ans contre le nucléaire et aujourd'hui bah, vous dites, et voilà, on l'avait dit il y a 40 ans, qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Mais on continue, ce qui est fait, mais il faut arrêter immédiatement en fait. On joue avec le feu, mais c'est trop dangereux.
Donc en fait vous êtes là parce que vous êtes contre le nucléaire et aussi pour soutenir les 7 inculpés.
Parce que la répression ça commence à bien faire, hein. C'est sur toute la France, dès que quelqu'un lève le petit doigt, il se retrouve en taule ou avec des amendes. Juste c'est de la répression gratuite pour faire peur. C'est le régime de la terreur, on fait peur à tout le monde, comme on a fait peur avec le Covid, mais on fait peur. Si vous allez dans la rue, ben vous avez les chances de faire arrêter. Et là, il n'y a aucune raison en fait de mobiliser un tribunal. Il y a combien de pages à lire demain? 240 pages. C'est un peu ou 400, j'ai vu ça, ridicule. Pour des gens qui n'ont rien fait en fait. Sauf être solidaire et dire non, vous gardez notre territoire, on ne veut pas du nucléaire. Ça mérite de passer une paire de jours ici, au soleil.
Merci beaucoup. Bonjour. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui?
Pour manifester ma solidarité entière, complète et inconditionnelle aux gens qui sont jugés aujourd'hui, donc au tribunal de Bar-le-Duc, et aussi pour exprimer mon souhait extrêmement vif de l'arrêt du nucléaire. Et je ne parle pas seulement des centrales nucléaires, mais également de la bombe atomique.
C'est juste qu'en rapport à la taille du problème, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Et ça me fait dire que les gens ne se rendent vraiment pas compte de l'ampleur du projet et de l'ampleur des dégâts que ça peut avoir.
Et c'est très quoi les dégâts que ça peut avoir?
Je pense qu'il va y avoir des pollutions des sols et des eaux énormes. En fait, ça a des incidences désastreuses pour l'environnement autour, quoi.
Oui, voilà. Et donc toi, en gros, ce que tu dis, c'est que par rapport à l'ampleur du problème, Il n'y a vraiment pas beaucoup de gens, et donc tu veux dire qu'il y a une mauvaise information ? Que les gens ne se rendent pas compte ?
Ben, je veux dire que l'État a bien fait son travail de désinformation. Voilà.
Pendant cette déambulation dans laquelle il y avait un bon millier de personnes, l'audience s'est donc poursuivie hein, avec la suite de la lecture des 180 pages de l'ordonnance de renvoi, c'est-à-dire de l'acte d'accusation. Mais une fois cette lecture terminée, il n'y avait donc aucun prévenu dans la salle, et ce qui va créer justement le premier incident sérieux de ce procès inédit.
Allô ? Ça marche mieux ? Donc l'ensemble des 7 mises en cause et 6 des 8 avocats ont participé à la manifestation, qui était une belle manifestation. Pendant ce temps, le tribunal a continué à examiner les faits qui étaient reprochés aux 7 personnes, à savoir la lecture de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal, c'est-à-dire les charges qui sont reprochées aux 7 personnes. Ça avait commencé ce matin, ça a terminé cet après-midi, alors que la manifestation était encore en cours. On avait indiqué au tribunal que la manifestation allait se dérouler de 14h à 16h et que sans doute nous reviendrons à 16h. Sauf que la lecture de l'ordonnance de renvoi s'est terminée un peu avant, donc il y a eu un petit peu de battement. Et je vais peut-être laisser un des deux avocats qui ont assisté à ces débats, qui n'étaient pas des débats, à la lecture de l'ERTC, nous raconter un petit peu ce qui s'est passé en fin d'audience.
Oui, alors ce qui s'est passé, on était deux effectivement avec Florian. Juste pour vérifier que les choses allaient bien se passer. Les choses se sont tellement bien passées qu'elles se sont passées vite. C'est-à-dire qu'une ordonnance de renvoi de 180 pages a été lue finalement en une demi-journée. Et donc, d'une certaine manière, la démonstration a été faite qu'il n'y avait pas grand-chose dans ce dossier, puisque en une demi-journée ou une journée et demie, on va dire, enfin une matinée et une moitié d'après-midi, l'instruction du dossier était terminée. Donc la question s'est posée de savoir quelle était la suite. Il y a eu un petit mouvement de flottement où le président s'est tourné vers ses assesseurs pour savoir qu'est-ce qu'on faisait. Le procureur de la République en a profité pour nous prendre à partie et dire que finalement c'était une prise d'otage de notre part du tribunal. Voilà. Ce à quoi on lui a répondu que nous, on ne demandait rien. On était là par la volonté du tribunal, mais on n'était pas... les maîtres de l'audience, on n'a pas demandé à ce que ça dure 3 heures, 3 jours ou plus. Et là-dessus, le tribunal s'est retiré donc pour délibérer, comme on dit. Et à l'issue de 10 minutes de délibéré, ils sont revenus en disant « Bon, bah, écoutez, puisqu'il n'y a plus rien à dire aujourd'hui, on se revoit demain matin à 9h avec les mêmes. » Voilà.
Alors en guise de pause musicale, on vous propose un morceau de musique, on va dire quoi, unique, complètement unique, parce qu'il faut savoir donc sur la place Saint-Pierre, donc à Bar-le-Duc, en haut d'une petite colline, il y a donc une place avec le tribunal, l'église, la prison et pas loin le conseil général. Voilà pour l'ambiance, et sur cette place, donc pendant 3 jours, il y avait donc énormément de personnes, des animations. Et comme on aime bien rigoler, il était question le troisième jour d'organiser le pot de départ de David Moisoyer. David Moisoyer qui est tout simplement le directeur de l'ANDRA, donc l'agence nationale qui pilote le projet CIGEO. Et donc pas mal de personnes ont travaillé d'arrache-pied pour faire cette petite cérémonie cocasse. On vous propose donc ce morceau qui a été donc conçu spécialement pour l'occasion.
L'Andra s'installe doucement dans la nuit, torresse et roi à son tour, d'un royaume d'incertitude la place est libre, il accourt.
La honte qui hurle en moi quand je pense à demain. J'ai trop de remords, j'ai tenu en vain.
Cache tous les risques, n'en parle pas. Fais attention, le secret pèse sur toi. Pas d'état d'âme, pas de tourment.
De sentiments libérés, mal voyés, je ne mentirai plus jamais. Libéré, mal voyé, c'est décidé, je m'en vais. Je laisse mes cauchemars au passé, perdu dans ce trou. Vivre est pour moi le prix de la liberté.
En profondeur semble insignifiant, et pourtant l'angoisse et la peur me hantent depuis longtemps. Je ne veux plus avoir affaire à cet enfer du nucléaire. À la réelle, c'est mieux qu'ici. Je fuis.
Libéré,
libéré. Ma carrière me tend les bras. Libéré, ma foyer. Non, je ne pleure pas. Me voilà. Oui, je suis là. Ailleurs en voir en face. Je dois partir et regarder mon reflet dans la glace. Toutes mes pensées sont des rivières contaminées. Je ne reviendrai pas, le passé est passé. Ma joie est délivrée. Plus loin le marais, me voyez, délivré, s'incarne et ça se fait. Je m'en vais comme je l'ai rêvé, ailleurs en l'ombre.
Puis est pour toi le prix de la liberté.
Deuxième jour du procès, donc ce 2 juin à 9h, l'audience a duré seulement quelques minutes, puisque tous les prévenus ont refusé de répondre aux questions. C'était leur stratégie de défense, hein, ne faire qu'une seule déclaration préalable. Ils n'ont pas non plus réagi aux questions de personnalité, c'est-à-dire la lecture de leurs antécédents judiciaires. Et ça s'est donc terminé au bout de 30 minutes. La suite, ce devait être l'audience des témoins, qui n'était prévue qu'à 14h, donc début de l'après-midi. Bilan, nouvelle récréation, suspension d'audience jusqu'à l'audition des témoins. Alors là aussi, un élément inédit, puisque l'accusation n'en a convoqué aucun d'abord. Ensuite, parmi les quatre témoins de la défense, il y avait le juge instructeur de Bar-le-Duc, qui a donc construit le dossier d'accusation. C'est tout à fait possible, hein, en droit. Le juge Kevin Le Fur, donc, c'est son nom, s'est donc fait cuisiner par les 8 conseils de la défense, et d'ailleurs, le lendemain, la presse locale va même titrer le juge d'instruction sur le grill au tribunal. Pour vous en rendre compte, cette audition du juge donc a été retranscrite, hein, par écrit et publiée quasiment in extenso sur le site Nous sommes tous des malfaiteurs. Allez-y, hein, parce que ça vaut vraiment le détour et puis ça sera difficile de vous le dire à l'antenne. Alors, les autres témoins, donc trois autres témoins, ont donc été cités à venir aborder chacun et chacune un angle précis de la lutte et de ce procès. Il y avait d'abord l'ex-ingénieur du CEA, fervent opposant au nucléaire, Bernard Laponche. Il y avait aussi l'opposant historique Claude Kaiser, qui a été très poignant, paraît-il, dans ses déclarations. D'ailleurs, on a déjà eu l'occasion de lui parler dans cette émission, il y a quelques années. Et enfin, Vanessa Codaccioni, elle est historienne à l'Université Paris 8 et elle est intervenue sur le rôle de l'association de malfaiteurs dans la répression d'État. D'ailleurs, on va l'écouter à sa sortie dans les couloirs du tribunal. Et nous terminerons par l'épisode de la partie civile, très cocasse, vous allez l'entendre, la commune de Bure qui se plaint d'un déficit d'image et réclame beaucoup d'argent par l'intermédiaire de son avocat.
Je suis Vanessa Codaccioni et je suis maîtresse de conférence à l'université Paris 8 et je suis spécialiste de la répression.
Quel a été le sens de votre intervention aujourd'hui ?
Mon intervention était de montrer comment ce qu'avaient vécu les accusés s'inscrivait dans un contexte de criminalisation du militantisme et comment on avait essayé de faire d'eux, finalement, des malfaiteurs, des individus radicalisés pour pouvoir les punir, les juger et les enfermer. De tout temps, des hommes et des femmes ont été réprimés pour leurs idées politiques, pour leurs appartenances, pour les causes qu'ils défendaient. Ça a toujours existé, mais on assiste depuis le début des années 2000 à un renouveau à la fois du militantisme et de la répression qui fait qu'on a de plus en plus de procès de militants dans lesquels les charges sont souvent très faibles, comme dans celui-ci. Bien sûr, avant, le procès était le moment le plus important quand il y avait la répression des militants. Le procès était le plus attendu. Aujourd'hui, tout se joue quasiment avant, au moment de l'enquête, au moment de la surveillance, des écoutes, de la géolocalisation, c'est-à-dire tous les moyens qui ont été mis pour surveiller des individus et pour pouvoir les poursuivre. Et finalement, le moment du procès devient de moins en moins important quand le juge judiciaire n'est pas concurrencé par l'administration.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a particulièrement surprise, la façon dont l'enquête a été instruite, dont les choses se sont déroulées, en tout cas la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui ?
Alors je n'ai pas été surprise parce que je travaille depuis 15 ans sur la répression des militants, mais il y a des choses qui m'ont quand même vraiment heurtée ou qui m'ont interpellée, c'est l'association de malfaiteurs, c'est-à-dire ouvrir une enquête contre des militants pour une association de malfaiteurs, alors qu'on sait que c'est une incrimination contre le terrorisme et qui est le signe de la présomption de culpabilité. C'est-à-dire on va arrêter plein d'individus et puis après on verra s'ils sont suspects ou pas.
Merci. Monsieur D'Artois, vous êtes avocat pour Groupama et la commune de Bure.
Oui.
Dans ce procès. Du coup, vous êtes partie civile pour réclamer des dommages et intérêts. Et du coup, ça, je viens de vous entendre à la barre. En fait, vous dites qu'il y a eu un problème d'image pour la commune de Bure suite aux contestations qui se mènent contre la poubelle contre le projet de poubelle atomique. Vous avez argumenté avec l'hôtel du Bain d'Oeil et du coup la commune de Bure réclame 50 000 euros ainsi que Groupama 18 123,19 €, un truc comme ça. Je me demandais un peu là dans le dossier pour les personnes qui sont inculpées, les actions de l'hôtel Bain d'Oeil ne jouent aucun rôle, ils ne sont pas du tout dedans. Comment est-ce que vous pouvez argumenter de quand même réclamer à ces inculpés là des dommages causés à cette action?
Alors si vous voulez, globalement c'est aussi l'année 2017 dans sa globalité qui a été très chargée, mouvementée pour la commune. Encore une fois, comme je l'évoquais aussi, il n'est pas question pour la commune de porter un jugement sur du militantisme qu'elle respecte. Et comme je le disais aussi, la commune a des habitants et ces habitants ont sans doute aussi, pour certains, sont pour, sont contre, ont des sentiments partagés, etc. Et c'est humain, voilà. Et quelle que soit la légitimité d'une cause. Donc la commune n'est pas du tout sur ça. C'est pas l'ANDRA, c'est pas un autre service public, etc. Mais le maire souhaitait être présent. Ensuite, donc c'est l'ensemble...
Excusez-moi, il n'est pas venu du coup par contre
Non, je le représentais.
C'est... Ça aurait été quand même plus fortement symbolique puisque vous parlez de
oui,
que c'est un symbole.
On est là pour ça, c'est la représentation. Les prévenus hier étaient aussi représentés par leurs avocats. Il y a ce mandat, si je puis dire, qui le permet. Bon, c'est la même chose pour le maire. Et donc c'est l'ensemble de 2017, mais c'est surtout que l'événement de l'hôtel du Bain d'Oeil a provoqué aussi un traumatisme important un traumatisme pour la commune et pour des habitants. C'est surtout à ce titre-là, en réalité, qu'il y a une forme aussi de préjudice pour la commune, selon en tout cas la commune. Hein, ça a été un événement qui a eu aussi provoqué un début d'incendie. Il y avait des personnes qui étaient dans l'établissement. Donc ça ne laisse pas indifférent la commune et ça ne laisse pas indifférent aussi une partie de la population.
Il y a eu des dégradations à bien d'autres moments au cours de cette année 2017. Pourquoi avoir choisi le Mandeuil, du coup, qui n'est plus dans le dossier ?
Parce que c'est un élément symbolique important qui a laissé justement un traumatisme plus important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la commune n'est pas dans une posture d'opposition, n'est pas, enfin, etc., même voire d'apaisement, mais elle souhaitait symboliquement être présente. Voilà, c'est un choix du maire, c'est un choix de la commune d'être institutionnellement, symboliquement présente. Voilà.
Vous avez dit tout à l'heure, en parlant de la commune de Bure, que c'est pas un lieu de science, de technologie.
Non, j'ai pas
pourtant,
dit ça.
Vous avez dit quoi exactement?
Non, j'ai dit que la commune n'était pas dans une démarche ni militante, ni universitaire, ni scientifique. La commune elle-même, la municipalité, elle n'est pas dans ces compétences-là. Hein, c'est normal. C'est pour ça que j'ai dit c'est une collectivité territoriale qui a des prérogatives que lui offre le droit et qui gère une collectivité d'habitants, de citoyens, 83, voilà, c'est ça. Mais effectivement, c'est ni universitaire, ni une militante, ni... Voilà.
Pourtant, vous êtes enfant du village, si j'ai bien compris.
Non, à côté, pas loin.
D'accord. Vous venez de quel village ?
Je le dirai pas.
D'accord.
C'est ma vie privée.
Bon, tout va bien. Donc, mais par contre, vous peignez quand même l'image d'un village un peu reculé, comme ça, un peu... Enfin, j'avais l'impression, vous disiez, il n'y a pas de gens, et puis c'est très très dur. Pourtant, là, depuis pas mal d'années, et la mairie a soutenu le projet pendant beaucoup de temps, il y a quand même pas mal d'argent qui est versé. On a quand même une commune qui profite largement de l'implantation du projet au niveau matériel. Déjà, ça fait questionner sur cette image de petit village qui est genre dans la galère.
Ça, j'ai pas dit ça. J'ai surtout dit que vous aviez des habitants qui avait un sentiment sans doute partagé. Moi, je ne suis pas capable de vous dire. Il y a 45%, 90% pour, contre, etc., etc. Mm-hmm. Je dis que tous les avis sont légitimes. Il y a des habitants qui sont partagés. Ils ont tort, ils ont raison. Ce n'est pas à moi de juger. Mm-hmm. Mais une municipalité est garante de la vie collective. Et d'essayer de faire en sorte que... c'est sa mission, c'est la mission du maire, c'est de faire en sorte qu'il y ait un cadre de vie... Mm-hmm. Plus possible, en tout cas le plus possible, agréable pour ses habitants. C'est juste ça que le maire dit. C'est tout.
Du coup, pour cet après-midi, il y a eu les témoins. C'était super. Bon, le FUR, c'était pénible. Et après, les autres, c'était super. Et ensuite, il y a eu l'incroyable prestation du maire de la commune de Bure. L'avocat qui représentait le maire de la commune de Bure. Et alors l'avocat de la commune de Bure, il faut savoir qu'il dort depuis le début du procès, mais que comme il est partie civile, régulièrement on lui demande s'il veut dire quelque chose. Donc il dit évidemment rien, jamais. Donc il représente la commune de Bure et l'assurance de la commune de Bure. Fin des témoignages qui étaient touchants, passionnants, bouleversants pour certains, c'était hyper émouvant le dernier, etc. Et bien, il y a ce type qui a été invité à plaider et qui avait l'air extrêmement dérouté de devoir plaider, alors que c'est... Bon, il est avocat, quoi. Et il a demandé s'il pouvait pas plaider demain, et le tribunal avait l'air de considérer que c'était quand même pas très important. Du coup, c'était bien si on pouvait l'expédier là à la fin de la journée. Du coup, ils ont proposé une pause. Il avait pas vraiment l'air de vouloir faire une pause non plus. Il a dit, bon, je vais y aller. Enfin, vraiment, il y avait un truc hyper cocasse. Et donc, il a plaidé avec une mollesse assez olympique, comme ça, mais sans s'arrêter, mais vraiment en allant très lentement. Et il a dit qu'il était là pour représenter le maire de Bure à titre symbolique, pour dire que la commune de Bure existe, que c'est compliqué d'être maire d'une petite commune, etc. Qu'il respecte tous les points de vue, même ceux qui ne sont pas forcément légitimes, on n'est pas sûr d'avoir compris ce qu'il voulait dire. Bref, que c'était compliqué, que la commune de Bure n'était pas contre ou pour le nucléaire, ni les déchets. Enfin, il y avait tout un truc comme ça, un peu mou. Suite à quoi, il a dit qu'il était là vraiment de manière symbolique, que sa prestation serait très brève pour ne pas occuper le temps de la justice. Et après, il a quand même demandé 50 000 euros de dommages et intérêts pour la commune de Bure. En la qualité de la commune de Bure est propriétaire de l'hôtel-restaurant, hôtel-restaurant dans lequel il y avait eu des exactions, des dégradations, qui ont lancé l'instruction, la commission rogatoire, etc., qui sont au cœur du dossier, mais pour lesquels personne n'est poursuivi. Donc, ils demandent 50 000 euros, on ne sait pas exactement à qui. J'imagine que si tout le monde est condamné à une grande association de malfaiteurs, alors on est aussi coupable des faits pour lesquels on n'est pas accusé directement. Enfin, je ne sais pas quel est le raisonnement. En tout cas, ils demandent 50 000 euros, et l'assurance de la commune de Bure, qui a donc payé pour... comment on dit ? Pour regrader après les dégradations ? Il a dit refaire le parquet, enfin je vous ferai pas le détail. Donc c'est 18 600 euros et 62 centimes. Donc ça fait en gros à peu près plus sa prestation à lui qui valait 4 000 euros. Ouais, ça fait hyper cher. Donc en gros il demande 72 000 euros de dommages et intérêts pour des personnes qui seront, même si elles sont condamnées, pas condamnées pour les faits pour lesquels lui il demande de l'argent. Enfin voilà. Suite à ça, tout le monde a décidé que c'était suffisant pour aujourd'hui. Et donc ça reprend demain à 9h du matin avec les réquisitions de, du procureur qui a dit que ça durerait, qui a dit qu'il ne s'était pas chronométré mais que sûrement ça ne durerait pas toute la matinée. Donc a priori, il y a les réquisitions du procureur demain matin, puis une pause, le début des plaidoiries des avocats et avocates de la défense, et a priori une pause déjeuner et suite et fin des plaidoiries dans l'après-midi. Et ensuite la boum, à Bure.
Troisième jour du procès, à la mi-journée, les prévenus et les avocats viennent de juste à l'instant de sortir. Acclamation. Aujourd'hui, c'est jour de kermesse. Donc, il y a eu les réquisitions ce matin du procureur et les avocats ont commencé leur plaidoirie.
Puisque ce matin, on a juste pris le temps de sortir pour, informer des peines qu'il voulait requérir. Donc, le procureur a commencé ses réquisitions en se défendant lui-même. Il s'est senti trop attaqué pendant ce procès. Et donc, il s'est assez longuement défendu. Il a expliqué, il a dit « je ne suis pas le bras armé de l'Indra ». Et plusieurs fois, il est revenu sur cette idée qu'il n'était pas l'instrument de la répression contre un mouvement. Voilà, donc ça lui a pris un bon moment déjà. Ensuite, il a expliqué que, ce n'était pas un procès politique. Il s'est appuyé là-dessus sur le fait qu'il a requis un certain nombre de non-lieux dans cette affaire, alors même qu'il y avait des éléments qui, selon lui, étaient troublants dans le dossier et qui auraient pu le pousser à quand même inculper un certain nombre de personnes. Ensuite, sur la maison de résistance, quand il a commencé à aborder les faits, donc après un certain temps, il a expliqué qu'il ne voulait pas parler de maison de la résistance ou de maison de résistance, parce que le mot « résistance » était un mot lourd de sens dans notre histoire, blablabla. Bla bla. C'est comme la collaboration. Et donc, pour la suite de ces réquisitions, il a expliqué qu'il ne parlerait pas de maison de résistance, mais de QG infractionnel. De son point de vue, cette appellation de QG infractionnel était beaucoup plus représentative des éléments qui étaient dans le dossier, beaucoup plus adaptée. Merci. Il a dit, vous l'avez compris, il n'y a pas de pénalisation du droit de manifestation. Il a continué à appuyer ces propos-là. Et donc ensuite, il a requis les peines. Mais donc, pour les trois personnes qui sont accusés de complicité, de détention d'engins incendiaires en bande organisée et d'association de malfaiteurs. Il a requis 18 mois de prison avec sursis et une interdiction pendant 5 ans de détenir une arme. Pour, pour deux personnes accusées de détention d'engins incendiaires en bande organisée, il a requis 12 mois de prison avec sursis et de nouveau une interdiction pendant 5 ans de détention d'armes. Pour une personne accusée de violence sur personne dépositaire de l'autorité publique sans ITT, sans interruption temporaire de travail, il a requis 10 mois de prison avec sursis. Et donc sur une personne accusée de détention d'engins incendiaires en bande organisée, il a requis 12 mois ferme en insistant assez lourdement sur le casier judiciaire de la personne et sur le fait que cette personne avait déjà effectué 8 mois de prison provisoire dans le cadre de cette enquête pour rupture de son contrôle judiciaire. Et il a demandé la confiscation de l'ensemble des scellés. Du coup, oui, effectivement, comme on me demande, selon les réquisitions du procureur, il demande à ce que cette personne fasse 4 mois supplémentaires, en plus des 8 mois qui ont déjà été effectués dans le cadre de cette affaire. Voilà, je rappelle que ce sont que les réquisitions et pas du tout les condamnations, dont on ne sait rien pour le moment. Et une remarque qu'on fait, c'est qu'il n'a même pas évoqué la partie civile. Donc, c'est-à-dire que la mairie de Bure et Groupama qui s'étaient constitués comme partie civile et qui avaient demandé hier 50 000 euros comme préjudice d'image, il n'a même pas considéré pertinent de les mentionner dans ses réquisitions.